tous, parce que c'est un peu dans la thématique, vous allez voir l'histoire d'un sacrifice, d'une agréable odeur pour Dieu. Bon, ben, je pense que vu l'heure avancée, je taillerai un petit peu dans le vif, hein. Alors, on va méditer sur Romains 12, verset 1, tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai pris un peu la charge de la prédication au pied levé puisque ça devait être Élie qui prêche ce matin. Donc Romains 12 verset 1. Je vous encourage donc frères et sœurs par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et ailleurs, il est dit aussi d'une odeur, un sacrifice vivant, d'une agréable odeur pour Dieu. Vous voyez, donc on rejoint un petit peu le thème. Alors, dans ma vie chrétienne, quand je décide de donner ma vie à Jésus-Christ, je sais que des choses vont changer. Mais il ne s'agit pas uniquement d'avoir de la bonne volonté, parce qu'il y a des choses que Dieu fait en moi et qui me dépassent. Alors, seules mes pensées, mon caractère, ma volonté, mon intelligence, mes sentiments sont du domaine de l'homme. C'est moi seul qui choisis ce que je veux faire et c'est moi seul qui pense ce que je dis et travaille sur ce que je ressens. C'est ce qui donne un peu des responsabilités. Et c'est une transformation qui m'appartient. Je sais qu'en même temps, je fais le mal que je ne voudrais pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Ben, c'est pas simple, mais c'est l'apôtre Paul qui le dit lui-même. Alors, il va quand même essayer de nous donner un coup de main pour essayer de vivre un petit peu en cohérence. Et il en connaît un rayon sur la question. Pourquoi ? Et que veut-il dire ? Premièrement, il écrit à une église locale qui est l'église de Rome. Bon, on ne sait pas grand-chose de l'église de Rome, hein, on n'a pas d'indice très précis. Certains disent que c'était des juifs convertis et qui étaient venus à la Pentecôte et puis qui ensuite étaient retournés à Rome. Mais ça paraît peu probable parce que les Juifs avaient été chassés deux fois par les empereurs et je pense qu'ils étaient quand même un peu persécutés, ils devaient se cacher. Ils ont été chassés en 19 et en 50 après Jésus-Christ. Et d'autres disent que c'est simplement des non-Juifs qui constituaient l'église de Rome. En tout cas, il est sûr que ce n'est ni Paul ni Pierre qui ont fondé l'église. Et ça ne devait pas être très facile parce que Rome était une ville corrompue, était une ville avec énormément d'idolâtrie. Il faut savoir que les soldats romains, quand ils rentraient à Rome, ils ramenaient plein de religions. Et il y avait une religion qui a failli rivaliser avec le christianisme, c'était le culte de Mithra. C'était un culte militaire et qui prenait énormément de place dans la vie sociale des militaires et aussi de Rome. Alors, ce verset que je suis en train de vous lire, eh ben, c'est dans l'Épître aux Romains. Et cette Épître, c'est quand même quelque chose de très costaud. On peut dire que l'Épître aux Romains, c'est un peu le nouvel évangile, hein, c'est ça qui va fonder le christianisme occidental, ça, c'est vraiment le pavé. Et tous les grands théologiens, les grands réformateurs sont passés par l'étude, l'approfondissement de l'Épître aux Romains. Donc, si je vous exhorte fortement à l'étudier, parce que toute la doctrine chrétienne est contenue dans cette épître. Alors, quand l'apôtre va s'adresser à l'Église, il dit « Je vous encourage ». Alors, il y a d'autres traductions qui disent « Je vous exhorte ». Mais je préfère le mot « encouragement », parce que « exhorte », c'est un peu de donner des conseils, c'est un peu forcé, c'est une notion d'ordre. Or, aujourd'hui, on a plus besoin d'avoir un peu d'encouragement. D'ailleurs, « encourager », »,« exhorter », c'est presque synonyme. Mais on a vraiment besoin d'encouragement aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe. Et quand Paul s'adresse aux Romains, il savait que la situation n'était pas facile, que ça soit pour les chrétiens d'origine juive, que ça soit pour les chrétiens d'origine païenne ou pour les deux à la fois. Alors, encourager, c'est permettre à une personne d'affronter ses difficultés en sachant qu'elle peut compter aussi sur ses propres forces. C'est-à-dire que encourager, c'est pas simplement de dire une ou deux paroles comme ça, mais c'est de savoir confiance aussi dans son potentiel. Mais ça ne suffit pas. Encourager, donc ça veut dire puiser en soi, mais on ne peut le faire que si on a des gens à côté de soi qui sont capables de nous accompagner, de nous encourager, d'être bienveillants et responsables. Ce qui veut dire que dans l'Église, l'encouragement nous vient de Dieu, mais aussi des frères et sœurs en Christ. Veillons, il y a un autre passage qui le rappelle très fort, hein, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour, à de belles œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du retour du Seigneur. » C'est dans Hébreux 10, 25. Alors la question que je me pose, c'est en quoi, moi, suis-je une source d'encouragement pour les autres et aussi pour moi-même? Et l'apôtre répond. Alors, l'apôtre encourage les Romains, mais l'Église de Rome, on va dire. Mais il n'est pas présent. Donc, il y a deux manières de faire. C'est de prier pour eux et aussi de leur donner, de leur enseigner quelque chose de fort, d'enseigner les vertus et les forces de l'Évangile. Alors, comme il n'est pas présent, bien sûr, il ne peut pas vraiment les soutenir et les accompagner par sa présence, mais pourtant, il les encourage. Et pour nous, c'est une leçon. Dans la mesure où le texte d'Hébreux que je viens de lire nous demande de le faire. Et je peux être aussi une source d'encouragement pour tous les chrétiens qui sont au loin, hein, quand on parle des chrétiens persécutés, quand on soutient nos missionnaires, ben nous pouvons encourager par un soutien financier, un soutien moral et spirituel. On peut le faire pour tous, auprès comme au loin. Alors pour vous, ces choses-là ne sont pas tout à fait nouvelles, mais elles ont quand même une réalité profonde et engageante. Parce que quand même l'apôtre Paul, il dit dans une petite phrase, il dit « Je vous encourage » et il y a un petit mot « donc ». Donc, et ce petit mot « donc » veut dire qu'il y a une conséquence, ce qui veut dire un engagement. Si je pense que d'encourager une personne, c'est simplement lui dire « courage, tu vas y arriver », c'est certes une parole positive mais gratuite. Alors il est vrai que la bouche parle de l'abondance du cœur, nous dit la parole de Dieu. Mais si je dois encourager, je dois m'engager moi-même. Il doit y avoir de l'empathie, du respect et de l'amour, et de l'engagement dans ce que je dis. Alors c'est vrai qu'il est toujours difficile d'avoir les mots justes pour encourager, hein, et pour soutenir les personnes qui sont dans l'épreuve. Mais malgré nos maladresses, on a de la sincérité et on a du cœur dans ce qu'on dit, hein, parce que quand on veut s'approcher des personnes et qu'on veut les aider, mais toujours veiller à ne, même si on est sincère, à ne pas être intrusif et blessant. Lui, Paul, il avait une toute autre mission pour l'encouragement. Il voulait non seulement encourager les chrétiens de Rome, mais surtout amener les chrétiens à reconnaître et à évaluer tout ce que Dieu a fait pour eux. Alors la suite du verset, elle est quand même un peu plus énigmatique. Il est parlé des compassions de Dieu. Et pour moi, ça m'amène à savoir que Dieu, dans sa compassion, il souffre avec son peuple. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les compassions de Dieu, c'est un peu abstrait. Que viennent faire les compassions de Dieu là-dedans? Pourquoi parler de compassion et non pas dire la compassion? Pourquoi employer un pluriel plutôt qu'un singulier? Alors, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'important pour l'apôtre, pour que l'apôtre Paul utilise le mot au pluriel. Pour moi, compatir, ça n'est pas souffrir à la place de l'autre, mais c'est souffrir de voir l'autre souffrir. Mais ici, il s'agit des compassions de Dieu. C'est pas une figure de style qu'emploie l'apôtre, hein, mais c'est que Dieu connaît ma souffrance, il connaît mes difficultés, ma lenteur. Et il connaît et ressent ma souffrance. Et Dieu est capable d'intégrer la souffrance de l'autre. Comme il a intégré certainement la souffrance de son fils. Alors, est-ce qu'un Dieu souffrant existe-t-il? Ça peut paraître impossible pour la perfection de Dieu. Mais le Dieu souffrant, c'est vrai, pose d'énormes problèmes de doctrine, sur la doctrine de Dieu. Certains ont utilisé cette souffrance de Dieu pour certains théologiens libéraux l'ont utilisé, par exemple, pour des prises de position marxistes, ce qu'on appelait la théologie de la libération. Mais il faut savoir qu'il n'existe aucune faiblesse dans la nature divine. ce qu'on appelle souffrance chez Dieu, c'est pas notre souffrance à nous. C'est vrai qu'il est possible pour Jésus-Christ de souffrir, ça tout le monde le sait, mais est-ce que c'est possible pour Dieu? Quand l'apôtre Paul emploie le mot « mes compassions », c'est de cela qu'il veut parler. Oui, mais il ne s'agit pas d'une souffrance, Dieu souffre quand il nous voit souffrir, mais ce n'est pas une souffrance liée à l'absence, ça n'est pas une souffrance liée au manque ou au péché, il s'agit d'une souffrance d'amour. Alors c'est très particulier, elle ne correspond pas à notre souffrance à nous. Comme Dieu pouvait le ressentir et le révéler quand il le déclare dans l'Ancien Testament. Alors j'avoue que c'est quand même une notion qui me dépasse un peu. Mais pourtant, l'amour et voir la pitié de Dieu à mon égard peut exercer chez lui une souffrance qui est causée par mon péché, par mes difficultés et par mon incrédulité, voire mon infidélité. Oui, Dieu souffre. Dieu peut être en colère et Dieu juge. C'est un acte d'amour envers l'homme, à qui il promet tout, la protection de ses enfants. Et le châtiment n'est qu'un acte de justice, mais un acte douloureux pour Dieu, qui châtie le révolté et le pécheur. Alors les compassions, qu'est-ce qu'elles viennent faire là? Les compassions, ce sont des actes d'amour et de souffrance. Dans les psaumes, ce mot compassion revient souvent. Psaume 78, verset 9, il dit « Ne te souviens plus de nos iniquités passées ». Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Pour vous en convaincre, lisez le psaume 53. Alors, si je résume, les compassions de Dieu sont, si vous voulez, toute une série d'actes d'amour et de pitié dont bénéficient. Et les compassions, c'est aussi une manière multiple que Dieu exerce sur nous par son amour, sur nos souffrances actuelles et futures. Alors Dieu sait qu'il va souffrir quand il me verra renier son nom ou avoir honte de lui, mais aussi quand dans ma foi fidèle, je subirai des attaques ou des épreuves qui viennent du monde. Les compassions, c'est l'expression de son œuvre accomplie. Alors le mot compassion au pluriel est cité 6 fois dans l'Ancien Testament et 1 fois dans le Nouveau Testament. Donc voilà, c'est ce que je voulais savoir un petit peu ce qu'il y avait derrière le mot compassion. Alors, ça veut dire aussi que Dieu intervient plusieurs fois dans ma vie, donc pour me tirer d'affaire. Alors, je tiens à redire que la pitié de Dieu n'a rien à voir avec la pitié des hommes, comme la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse des hommes, et la souffrance de Dieu n'a rien à voir avec la souffrance des hommes. Le mot « souffrir » pour Dieu est peut-être mal employé et impropre, mais c'est une manière de comprendre et de voir que Dieu nous connaît dans nos souffrances. Comme le dit le cantique, il connaît nos défaillances. Alors, le mot compassion est au pluriel, c'est parce qu'il décrit une multitude d'actes de Dieu qui vient à notre secours. C'est vrai qu'à chaque fois que je lui demande de l'aide, les actions de Dieu expliquent le pluriel du mot compassion, car il traduit, si vous voulez, un nombre important de chacune de ses interventions. Il agit pas seulement par un acte, mais par une communication, voire par une onction d'amour que nous apporte le Saint-Esprit. Alors, il ne s'agit pas que de mécanismes, mais tout ça, c'est lié à une relation profonde qui est là pour encourager le croyant. D'autres mettraient à la place de compassion le mot miséricorde, ils sont synonymes. Mais là, moi, je tenais à ce qu'on soit précis. C'est pas uniquement une querelle de mots. Hein. Il faut savoir que de quoi on parle. Hein. Je pense que quand on étudie la Bible, il faut toujours avoir le souci de précision et de compréhension. Il faut pas noyer la parole de Dieu dans un flou de généralité à coups de synonymes. Parce que Dieu nous a inspiré les auteurs bibliques pour nous corriger, pour nous enseigner, nous convaincre et nous instruire. Donc c'est quand même, quand il emploie un mot, c'est quand même précis et il faut s'y tenir. Donc c'est dit dans 2 Timothée 3,16. Alors l'autre suite du verset 1, c'est « offrir vos corps ». Alors, Dieu ne réclame pas des kamikazes, ni des corps stigmatisés, ni des corps torturés, ou des gens qui sont prêts à se faire mal ou à se donner la mort pour en sauver d'autres. Ici, le sacrifice vivant peut être assimilé, si vous voulez, à un engagement total, un peu comme l'image de la pierre vivante qui participe à la construction de l'Église. Et la vie, pour ça, Jésus en est le parfait exemple. La vie de Jésus est en partie exemplaire. Mais il ne s'agit pas simplement d'imiter Jésus, hein, parce qu'il faut un peu décoder dans ce que faisait Jésus, pour voir, si vous voulez, un peu les valeurs qu'il faut tirer de sa vie et de ses enseignements. Bon, on sait que c'est un homme de prière, ça on peut l'imiter. C'était aussi un serviteur, ça on peut l'être. Bon, c'était un homme franc, un peu raide parfois, cela devait être dû à son mode de vie nomade. Par contre, ça demande d'être travaillé avant d'être imité. On s'improvise pas nomade, et encore moins avec un fouet à la main pour chasser les vendeurs du temple. Il y a des choses qu'il faut éviter d'imiter. La notion de corps comme sacrifice, comme le dit le verset, montre que Jésus a voué sa vie et son ministère, et il a toujours gardé en ligne de mire sa vocation et sa mission. Et ça, c'est des choses que on doit aussi imiter. Si on va un petit peu plus loin, on dirait que le sacrifice vivant, c'est un homme et une femme d'exception qui est pleinement engagé, qui déborde de vie et de joie, et qui a vraiment l'idée de se donner totalement au Seigneur. Alors ça rejoint un peu l'idée du zèle et de la foi. Ce sacrifice vivant rejoint le commandement de Jésus sur la fidélité et la vigilance du disciple. Alors, on peut se référer à certains exemples dans les paraboles du royaume et les exemples dans les évangiles. Il faut mettre en parallèle ce verset avec celui de la parabole du drachme perdu, dans Luc 15, verset 8. La femme fait tout son possible pour retrouver cette pièce, et le chrétien doit tout faire pour utiliser les armes de Dieu, le zèle et la foi. Ça rejoint aussi, ça a été cité tout à l'heure, l'exemple de la femme qui brise le flacon de parfum de grand prix, dans Matthieu 26. Et cela rejoint aussi des chrétiens qui meurent pour leur foi. Ce verset leur est adressé. Ils ne choisissent pas de mourir, mais de vivre pour proclamer leur foi. Et c'est l'ennemi, c'est Satan qui les fait mourir. Alors, vigilance et zèle sont les deux critères du sacrifice spirituel. Alors, l'Ancien Testament mentionne 40 fois un sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel. Et on a vu, là, avant, hein, voyez, on se rejoint un petit peu avec l'introduction. Alors, Paul, lui, n'en parle pas du sacrifice du bon odeur. Par contre, il l'aborde dans un autre verset qui est parallèle. Il dit, quand il parle d'Épaphrodite, il dit, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens et recevant d'Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Ça veut dire que Dieu agrée notre engagement. Et Dieu est heureux et Dieu a une sensation agréable quand on est fidèle. Il aime le serviteur fidèle. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'expression d'une agréable odeur. Alors après, disons, la dernière partie, c'est comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors, si j'offre mon corps à Christ, le verset insiste sur la nature de ce sacrifice. Il est dit qu'il est sain, juste et agréable. Pourquoi ? Ce qui montre que ma vie s'organise en fonction de ma réalité, qu'elle soit psychique, sociale, professionnelle ou familiale. Les mots « juste » et « saint » montrent que mon sacrifice vivant, ben, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui va être pensé, réfléchi et organisé. On ne s'engage pas comme ça n'importe comment. Je vais partir construire, non pas coup par coup, ni dans un flou artistique, ni en dilettante. Le culte raisonnable, c'est une démarche intelligente qui s'accorde avec les besoins de l'Église et de l'Église locale. Ceux qui croient que d'offrir son corps, c'est se jeter dans la bataille, dans le débordement, dans le tout-venant et l'activisme, font fausse route. N'oubliez pas l'exemple du maçon qui va construire une tour et qui mesure son entreprise pour savoir comment terminer son ouvrage. On n'est pas amené comme ça à construire une succession de choses inachevées et de ruines. La vie chrétienne est rarement compulsive. Alors, pour un culte spirituel et raisonnable, selon les traductions, ça veut dire que si ma réalité est multiple, par contre, ma nouvelle nature est devenue spirituelle. Et rendre un culte spirituel à Dieu, c'est de vivre selon son esprit, rien d'autre. Il ne s'agit pas de faire autre chose que ce que Dieu me demande, ni exploit, ni sacrifice inutile, ni activisme, ni œuvre, ni action supplémentaire. Alors beaucoup ont essayé de détourner cette parole en faisant des fois un peu tout et n'importe quoi. Mais il faut toujours travailler avec discernement. Et l'apôtre Paul le dira aussi. Je suis capable d'être dans l'abondance comme je suis capable d'être dans la disette. C'est ce qu'il dit dans Philippiens 4:12. Dans la vie chrétienne, rien n'est prévisible, mais avec Dieu, tout est conduit. C'est cela un peu la nuance. Notre engagement et notre zèle font plaisir à Dieu et l'honore. C'est cela être un sacrifice d'une agréable odeur. Et chacun verra par cette image du sacrifice tout ce qu'il peut faire pour se donner pleinement à Jésus-Christ et faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors, quand l'apôtre Paul parle de donner son corps, c'est pas simplement l'aspect corporel, hein, c'est de donner tout son être entier. Alors, pour conclure, je dirais que vivre pour Jésus-Christ doit être un projet de vie. Ça doit être envisageable, hein, de se dire je vais vivre pleinement pour Jésus. On doit l'aborder sous la forme de quelque chose d'enthousiasme, de passion et d'aventure, au détriment de faire les choses simplement par obligation, lassitude ou gémissement ou autosatisfaction qui parfois peuvent nous animer. N'oublions pas que nous sommes des hommes et des femmes faibles, mais déterminés à l'espoir, ce qui nous laisse toutes les chances de faire l'expérience de la joie et puis de la motivation. Mais attention, aujourd'hui il y a le Covid, c'est une sorte de petit antichrist, il est là, il rôde, et il essaye un peu de saboter toutes les choses. Alors soyons vigilants. Et ne cédons pas aux arguments de prudence et de démission pour justifier de ne rien faire et de déserter le service. Alors nous qui sommes ici présents, nous sommes appelés à nous encourager les uns et les autres, et nous devons aussi encourager les frères et sœurs qui sont absents pour des raisons de santé et de prudence. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Que Dieu vous accompagne. Amen.